France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia.
Musique et moi.
Bernard Cazeneuve.
Elsa Boublil.
C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loups boutonnent, Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles, Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche, Félicie aussi. Afin de séduire la petite chatte, je l'emmenais dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. Je paris un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes, Élisée, oh si. Puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille, Élisée, oh si. Je m'offris une giblotte, elle embaumait l'échalote, Félicie aussi. Puis une poire et des gaufrettes, seulement la poire était blette, Félicie aussi. La Ramon lui tournant la tête, elle murmura « quand tu voudras ». Alors j'emmenai ma conquête dans un hôtel tout près de là. C'était l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados réuni. Je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière, Félicie. Oh, je me lavais les mains bien vite, lavabo avait une fuite, Félicie. Oh, sous l'armoire, il y avait une cale, car elle était toute bancale, Félicie. Oh, il y avait un fauteuil en plus, mais il était rempli de puces, Félicie. Oh, si. Et des draps de toile molle me chatouillaient les guiboles, Félicie. Oh, si.
C'est sur cette chanson interprétée par Fernandel, Félicie, aussi au caractère poétique et humoristique que nous accueillons Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur, en retrait de la vie politique depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Vous êtes discret, mais néanmoins présent, comme nous avons pu le constater en décembre dernier depuis la crise des Gilets jaunes. Vous aviez signé une tribune dans Le Monde sur la nécessité d'écouter le peuple. Vous êtes un fin mélomane, vous écoutez France Musique, si j'en crois ce qu'on peut lire et entendre de vous, et aussi à en croire les souvenirs musicaux que nous allons entendre ce matin. On vous voit parfois au concert et vous parlez souvent de musique dans les interviews. Félicie aussi pour vous accueillir, c'était parce que j'ai cru lire que vous connaissiez la chanson. D'ailleurs, vous avez cité quelques paroles pendant l'écoute. Bonjour Bernard Cazeneuve.
Bonjour.
Vous avez la réputation donc d'aimer chanter, en tout cas être en bonne compagnie, et la musique est très présente. C'est vrai ça ?
Oui, c'est vrai, depuis toujours. D'abord parce que dans mon enfance, j'étais dans une famille qui écoutait beaucoup de musique. Mes grands-parents, mes grands-mères notamment, mes parents aussi. J'ai commencé à apprendre la musique à l'âge de 5 ans. Et j'en ai joué jusqu'à l'âge de 18-20 ans.
Ah oui.
Donc ça fait quand même de longues années d'apprentissage d'un instrument qui était un instrument difficile, un gras, le violon, avec l'obligation pour pratiquer cet instrument dans de bonnes conditions, de maîtriser aussi ce que l'on appelait à l'époque la théorie, c'est-à-dire d'être capable de lire une partition, de comprendre comment se composer une œuvre, et tout cela a quand même occupé une grande partie de mon enfance et de mon adolescence. Je dirais même que la musique a été mon univers pendant les 20 premières années de ma vie, beaucoup plus que tout le reste.
La chanson française, comme Félicie aussi, ça faisait partie de votre univers ?
La chanson française, moi, à cette époque, parce que la culture qui m'a été inculquée par mes professeurs, à la fois à l'école et dans l'école de musique où j'étais à Senlis dans l'Oise, était une culture très très classique, une éducation très classique. Mais plus tard, j'ai appris à découvrir la chanson française dans toutes ses facettes. Je dois reconnaître que j'aime beaucoup ça, que je vais aussi beaucoup écouter des chanteurs français, parfois même aussi des chanteurs étrangers. J'ai accompagné mon fils quand il était enfant et adolescent à des concerts de McCartney ou à des concerts d'Eric Clapton.
Récemment,
et j'ai découvert grâce à lui, enfin c'était dans les années 2000, et j'ai découvert grâce à lui une musique que je connaissais pas. Donc moi j'ai des goûts assez éclectiques et je vis en permanence avec de la musique. Dès le matin et le soir, et c'était encore plus vrai lorsque j'étais au gouvernement, après des journées très lourdes, parfois difficiles, je m'endormais toujours en écoutant un peu de musique dans un casque ou dans des écouteurs.
Vous êtes l'invité de Musique et moi jusqu'à midi et demi, Bernard Cazeneuve. On va avoir la chance de découvrir vos goûts musicaux et ce souvenir, je crois, d'enfance. L'ensemble Hilliard interprète Mille regrets pour ensemble vocal a cappella de Josquin des Prés, une pièce de la Renaissance de ce compositeur franco-flamand qui parle d'amour, d'abandon. Bernard Cazeneuve, c'est votre premier souvenir musical d'enfance ?
Donc, quand je dis que c'est mon premier souvenir musical d'enfance, quand vous m'interrogez pour me demander cela, et si on doit placer les choses dans leur contexte. J'avais un professeur lorsque j'étais au collège qui comptait beaucoup. Il était professeur de sciences naturelles, c'était un passionné de musique, il allait tous les ans à Bayreuth, il avait une discographie considérable et une culture musicale incommensurable. Et pour nous apprendre ce qu'était la musique et nous faire comprendre ce qu'avaient été les différentes époques, du chant grégorien jusqu'à la musique dodécaphonique de Berchenberg, Webern, et ensuite en allant jusqu'à Messiaen, Pierre-Henri, Boulez, etc. Et il commençait par nous faire comprendre ce qu'était la polyphonie, les pièces polyphoniques du XVIe siècle. Et c'était très pédagogique, effectivement, parce qu'on comprenait le rôle que jouaient les voix, on commençait à voir ce qu'était la mélodie. C'est à ce moment-là que la mélodie, le contrepoint, même si le contrepoint prendra une place plus importante dans la musique baroque, commence à apparaître. Et puis il y a les textes avec leur poésie, et ce texte de Josquin des Prés est très beau. Je ne sais pas si vous... C'est du vieux français, mais il est très beau. « Mille regrets de vous abandonner et d'éloigner votre face amoureuse. J'ai si grand deuil et peine douloureuse qu'on me verra, bref, mais toujours définie, etc. » Donc sur le plan de la prosodie, qui est un élément de la musique, lorsque la voix rencontre les instruments ou lorsque la voix rencontre la mélodie, on est là dans ce qu'est la musique dans sa plénitude. Donc ça a beaucoup compté pour moi et ça m'a permis de mieux comprendre beaucoup d'autres mouvements musicaux qui se sont structurés par la suite et qui ont donné des œuvres magnifiques dont on parlera peut-être plus tard dans l'émission.
Absolument. Donc là, vous êtes à l'âge où on est en mesure de commencer à élaborer l'histoire de la musique et puis aussi de s'inscrire, j'imagine, soi-même.
J'ai 11, 12 ans à peu près.
Oui, c'est ça. Et donc, y a, j'imagine aussi l'émotion d'entendre cette musique presque mise à nu, la polyphonie qui nous fait entendre une émotion intense.
Oui, j'avais quelques difficultés à me faire au chant grégorien. J'avais été amené à entendre, à l'invitation de ce professeur, une sublime pièce que je redécouvrais beaucoup plus tard, qui est le Miséréré d'Allegri. Mais j'avais du mal avec le chant grégorien. J'ai été amené à découvrir cette musique polyphonique avec l'Orfeo de Monteverdi, qui est considéré comme le premier opéra et qui où les instruments, la mélodie, les voix, le texte se rencontrent pour créer vraiment le sentiment de l'émerveillement et de la profondeur. Et ensuite, j'ai découvert toutes ces œuvres polyphoniques du XVIe siècle avec effectivement une immense émotion. Parce que je crois que ce sont les premières œuvres vraiment où la mélodie devient première, où la mélodie joue son rôle.
Bernard Cazeneuve, vous disiez que vos parents, enfin dans votre environnement familial, ont écouté beaucoup de musique. Est-ce que il vous arrivait, en étant à Senlis, d'aller à Paris écouter des œuvres, des opéras des...
D'abord, Senlis, c'est pas une ville comme une autre. Je suis né dans cette ville, j'y ai vécu les 20 premières années de ma vie. Il faut voir ce qu'était cette ville à l'époque où j'y vivait mon enfance et mon adolescence. C'était une ville qui avait dû rester identique à elle-même pendant des siècles et des siècles. C'est une ville extraordinairement conservatrice, qui avait une histoire ancienne, gallo-romaine, et puis elle avait joué son rôle dans l'histoire des rois de France. Elle était chargée d'histoire. Ses remparts qui la protégeaient solidement témoignaient de cette histoire longue, qui était inscrite dans le temps long de son passé. Et cette ville abritait 17 églises. Et dans ces 17 églises, on donnait des concerts. Alors, bien entendu, dans la cathédrale de Senlis, je me souviens que le premier concert que j'avais eu l'occasion d'entendre lorsque j'avais 8-9 ans était un concert de l'organiste Jean Guillou, qui donnait des toccates à Bach. Et puis, il y a eu des concerts surtout dans une église qui s'appelait l'église Saint-Frambourg, qui avait été acquise par le pianiste Georges Xifra. Et dans cette église, Xifra donnait ses concerts de piano autour, bien entendu, des mélodies de Franz Liszt. C'était son compositeur. Mais l'ensemble vocal auquel j'appartenais, qui s'appelait l'ensemble vocal du Aubergier, qui était dirigé par une femme qui était mon professeur de violon et de musique, qui s'appelait Jacqueline Trébu, qui est une personne qui a beaucoup compté dans ma formation musicale. Toutes ces églises donnaient à découvrir et à fréquenter des œuvres multiples. Donc, Senlis, c'était ça. Et mon enfance, ça a été ça. Et mon adolescence, ça a été ça.
Mais pour écouter de l'opéra, j'imagine qu'il fallait quand même, comme on dit, monter à Paris.
Alors, on allait à Paris, bien entendu. J'allais à Paris, notamment, avec mon lycée. Et je suis allé pour la première fois à Paris, à l'âge de 13 ans, écouter avec mon professeur d'allemand, qui voulait me récompenser d'être assidu et travailleur, la flûte enchantée de Mozart, dirigée par Karl Böhm, avec Kirite Kanawa dans le rôle principal. Et j'avais eu la chance, à l'occasion de cette belle séance d'opéra, d'être assis juste à côté d'Arthur Rubinstein, ce qui m'avait beaucoup marqué et impressionné.
Thank you.
Et c'est Kiri Tekanawa qui interprétait cette air de Pamina sous la direction de Neville Mariner et l'orchestre de l'Academy of St. Martin in the Fields. C'était bien sûr la flûte enchantée de Mozart. On parlait, Bernard Cazeneuve, à l'instant de cette première fois à l'Opéra de Paris. Donc on est en 1976. Vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti? Est-ce que le lieu a pu favoriser cette impression que forcément donne cet opéra de toute façon?
Ben, le lieu a beaucoup compté parce que c'était la première fois que je m'y rendais. J'avais eu la chance d'être très bien placé dans la salle de l'opéra au premier rang. Je vous ai dit que j'étais à côté d'Arthur Rubinstein dont je connaissais les interprétations.
Vous l'avez reconnu?
Je l'ai reconnu et il m'a été présenté à ce moment-là. Et c'était pour moi extrêmement impressionnant d'être à côté d'un interprète absolument monumental qui devait avoir à l'époque 90-91 ans, qui était un très vieux monsieur, mais dont l'œil demeurait très vif et dont la conversation était encore très, très alerte et qui s'intéressait à un jeune élève qui était là, qui était encore un enfant. Donc bien entendu, les lieux comptaient, il y avait la majesté de cet immense opéra, et puis il y avait la personnalité de Carl Böhm, que l'on ne voit pas, qui est dans la fosse, mais qui arrive tout à fait au début, et qui apparaît à la fin comme un personnage sautillant, précis, vif, énergique, et puis la beauté de la mise en scène, c'est une mise en scène absolument fantastique, des décors extrêmement lumineux, colorés, avec une mise en scène qui avait fait le choix de faire ressortir la dimension aussi très très fantasque et très symbolique de cet opéra qui envoie pour Mozart des choses essentielles, notamment ses appartenances philosophiques. Oui. Donc tout y était dans la mise en scène. C'était quelque chose d'étincelant, de presque luxuriant. Et j'ai été effectivement impressionné par les lieux, par les chants, par la présence de ce grand interprète.
L'œuvre, vous la connaissiez?
L'œuvre, je la connaissais bien, oui. Mmh. Oui. Donc, et c'était encore plus merveilleux que d'être à l'opéra pour découvrir, pour la première fois sur scène, une œuvre que j'avais écoutée à de multiples reprises et qui était une œuvre que je trouvais absolument sublime. Je dois d'ailleurs dire que, pour ce qui concerne cette œuvre, comme d'autres de Bach ou de Charpentier ou de Wagner, je ne me suis jamais lassé de les écouter, de les entendre. Et c'est ça qui est absolument inestimable, merveilleux, surprenant, magique, surnaturel. C'est que chaque fois qu'on écoute une œuvre, même si on l'a écoutée des centaines de fois, ce n'est jamais la même œuvre qu'on écoute.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Vous évoquiez ce prof d'allemand qui vous a emmené à l'Opéra de Paris, Bernard Cazeneuve. C'était donc, j'imagine, pour savourer également la langue.
Oui, absolument, parce que j'étais un élève en allemand qui était un bon élève. Et donc, comme j'avais fait un très bon trimestre, ce professeur m'avait proposé d'aller découvrir, à travers l'opéra, une autre facette de la langue allemande.
Est-ce que ça peut permettre aussi de se rapprocher d'une langue, l'idée de Mozart, donc d'écrire cet opéra en allemand?
C'était une bonne idée de la part du professeur, parce que ça m'a beaucoup motivé pour aller plus loin encore dans l'apprentissage de cette langue, qui était considérée à l'époque comme une langue difficile, mais dont la pratique m'a été facilitée par la fréquentation de la musique, notamment les cantates de Bach. Mmh. Les cantates de Bach, vous avez une langue allemande très belle, très simple aussi à comprendre. Je pense à cette très belle cantate qui s'appelle Ich habe genug, que j'ai écoutée beaucoup, souvent, cantate du café, d'autres encore, et qui m'ont permis d'avoir à la langue allemande une relation plus fluide encore, et par conséquent d'essayer de mieux la parler, sans être sûr d'y parvenir jamais.
Si je t'écris ce soir de Vienne, j'aimerais bien que tu comprennes que j'ai choisi l'absence comme dernière chance. Notre ciel devenait si lourd. Si je t'écris ce soir de Vienne, oh que c'est beau l'automne à Vienne. C'est que sans réfléchir, j'ai préféré partir et je suis à Vienne sans toi. Je marche, je rêve dans Vienne. Sur trois temps de valse lointaine, il semble que des ombres tournent et se confondent, qu'ils étaient beaux les soirs de Vienne. Ta lettre va dû croiser la mienne. Non, je ne veux pas que tu viennes. Je suis seule et puis j'aime être libre. Oh que j'aime cet exil à Vienne sans toi. Une vieille dame autrichienne, comme il n'en existe qu'à Vienne, me loge. Dans ma chambre tombent des pourpres et d'ambre, de lourdes tentures de soie. C'est beau, à travers les persiennes, je vois l'église Saint-Étienne. Et quand le soir se pose, c'est bleu, c'est gris, c'est mauvais, et la nuit par-dessus les toits. C'est beau, Vienne, c'est beau, Vienne. Cela va faire une semaine, déjà, que je vis seule à Vienne. C'est curieux le hasard, j'ai croisé l'autre soir nos amis de l'Untachimo. Cela va faire une semaine, ils étaient de passage à Vienne. Ils n'ont rien demandé mais se sont étonnés de me voir à Vienne sans toi. Moi, moi, je me promène, je suis bien, je suis bien. Je suis bien, si bien. Et puis de semaine en semaine, voilà que je vis seule à Vienne. Tes lettres se font rares, peut-être qu'autre part tu as trouvé l'oubli de moi. Je lis, j'écris, mais quand même, pour qu'il est long l'automne à Vienne. En ce lieu de place où la nuit je me glace, tout à coup j'ai le mal de toi. Que c'est long, Vienne, que c'est loin, Vienne. Si je t'écris ce soir de Vienne, chérie, c'est qu'il faut que tu viennes. J'étais partie, pardonne-moi, notre ciel devenait si lourd. Mais toi de Paris jusqu'à Vienne, au bout d'une invisible chaîne, tu me guettais, je pense, jouant l'indifférence, et tu m'as gardé malgré moi. Il est minuit ce soir à Vienne, mon amour, il faut que tu viennes. Tu vois, je m'abandonne, mais il est si beau l'automne, et je veux le vivre avec toi. C'est bon, Vienne, avec toi, Vienne.
Barbara qui interprète Vienne. Pour vous, Bernard Cazeneuve, j'ai choisi cette chanson parce que j'ai vu qu'elle figurait parmi les chansons que vous aimez écouter quand vous n'écoutez pas de la musique classique. Et c'est presque devenu un classique, Barbara, surtout dans cette histoire.
C'est considérable, cette chanson. Mmh. Vous avez peut-être 3-4 minutes de chanson et vous avez une histoire qui donne le sentiment de durer une éternité et qui est comme un petit roman. Et un petit roman mélancolique avec une rupture finalement souhaitée par la personne qui s'en va pour oublier puis qui n'y arrive pas. Et puis l'écriture qui joue un rôle absolument considérable dans les relations affectives et amoureuses, qui essaie de réparer les choses, les réponses attendues qui n'arrivent pas, tout le monde connaît cela. Et puis le manque, et le manque qui devient insoutenable, et puis l'appel au retour. Ce sont des histoires que nous avons tous vécues dans nos vies, à un moment ou à un autre, et qui sont des histoires qui ont une intensité toujours, qui suscitent beaucoup de mélancolie, qui peuvent susciter une nostalgie dont on peut devenir inconsolable. Et la mélodie dans cette chanson exceptionnelle renforce ce sentiment de nostalgie, de mélancolie, de profondeur. Et je pense que ceux qui écoutent beaucoup de musique et qui écoutent d'ailleurs une musique multiple dans ses formes d'inspiration, dans ses formes d'expression, sont souvent des tempéraments mélancoliques. Et la mélancolie n'est pas un mauvais sentiment, ce n'est pas une souffrance, c'est une sensibilité extrême aux choses de l'extérieur et qui vous donne une vie intérieure parfois plus dense que celle que vivent ceux qui n'ont pas la chance d'éprouver ce sentiment.
Pour poursuivre avec Barbara, Bernard Cazeneuve, je voulais évoquer, Barbara, évidemment, on pense aux années Mitterrand. J'ai lu que votre conviction politique datait de la prime enfance. Et c'est quelque chose qui vous a habité depuis longtemps.
Ouais, c'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de rencontrer François Mitterrand pour la première fois à l'âge de 10 ans. À l'occasion d'un meeting pour les élections législatives de 1973. Et c'était le meeting du soir de la clôture de la campagne. Et la campagne se clôturait à minuit. Mitterrand était prévu à 20h30. Il est arrivé à 23h30. Il connaissait mon père. Et je me suis fait gronder parce que Mitterrand considérait qu'un enfant n'avait rien à faire ici. Il s'en est pris à la fois à mon père et à moi-même. Et beaucoup de ce qui s'est passé par la suite pour moi a été dicté par ce moment-là, où j'ai vu un homme incarner des convictions, mais aussi incarner plus que des convictions, une relation particulière au pays et aux gens. Et ce qui m'a frappé chez lui, c'est que derrière une apparente froideur, il y avait une profondeur, une densité, un regard porté sur les autres, qui était la plupart du temps bienveillant. Comme quoi, la distance peut ne pas exclure la bienveillance, et la sympathie apparente parfois traduire une grande distance et un grand mépris.
La Nativité de la Vierge de Marc-Antoine Charpentier, interprété par le Concert des Nations sous la direction de Jordi Savall. Alors c'est un texte latin non liturgique, comme un petit oratorio dans lequel dialoguent les hommes avec les anges. C'est beau, Bernard Cazeneuve. Marc-Antoine Charpentier, ça fait partie des compositeurs qui ont compté à des moments de votre vie importants.
Et oui, parce que à un moment donné de ma formation musicale, ça devait être en 1979-80, autour de ces années-là, je devais avoir 16-17 ans, et nous avions prévu de donner pour le concert de Noël une pièce qui était la Nativité de Marc-Antoine Charpentier, mais qui était une pièce qui n'avait pas été donnée depuis la mort de Marc-Antoine Charpentier. Parce que, vous savez cela, Marc-Antoine Charpentier a souffert, comme d'autres musiciens de cette époque où il a écrit, composé, joué ses œuvres, d'une concurrence féroce avec Lully, qui avait pris des dispositions juridiques dont je ne sais plus exactement quelle était la nature, mais qui lui donnait une quasi-exclusivité dans la relation avec le roi et dans la possibilité d'utiliser les théâtres pour diffuser ses œuvres. Donc il fallait réaliser 1000 prouesses pour parvenir, lorsqu'on n'était pas Jean-Baptiste Lully et qu'on était compositeur, à produire ses œuvres. Alors lui avait réussi à le faire dans des conditions un peu compliquées, dont j'ai pas le détail, dans une relation assez complice avec Molière, dont il avait composé une partie de la musique du Médecin malgré lui du Malade imaginaire. Mais il a quand même beaucoup composé d'œuvres qui n'ont pas pu être jouées autant que l'avaient été les œuvres de Lully. Et lorsqu'il est mort, sa descendance a confié à la Bibliothèque royale la totalité des manuscrits, des œuvres très nombreuses, très riches qu'il avait pu écrire. Et dans les années 80, au moment où on commence à redécouvrir la musique baroque, un musicologue s'appelle Michel Sanvoisin, et qui est un spécialiste des ensembles baroques de petite forme, retrouve ce manuscrit, restaure ce manuscrit et nous propose pour la première fois de redonner cette œuvre avec lui à la direction de l'orchestre et un ensemble d'interprètes de qualité, dont un haut-contre qui s'intitulait Joseph Sage et qui était un haut-contre à l'époque connu, réputé et de qualité. Et donc nous avons donné cette œuvre pour la première fois en décembre 1980. C'est la première fois qu'avec cet ensemble vocal, nous donnions une œuvre qui n'est pas une œuvre a cappella, mais avec orchestre. Et bien entendu, se retrouver au milieu de l'orchestre avec un chœur pour donner une œuvre que l'on redonne pour la première fois depuis quelques siècles, ça avait une dimension extrêmement émouvante. Sans compter que l'œuvre, sur le plan mélodique, était exceptionnellement belle.
Mais ça veut dire, Bernard Cazeneuve, que vous avez pratiqué la musique à un niveau quasi professionnel. À quel moment
vous
avez...
Il y a même un disque qui a été fait par cet ensemble vocal dans les années 80.
On retrouve ça.
Par l'ensemble vocal du Auberger. Je ne sais dans quelle émission de télévision que j'ai faite à l'occasion de la sortie d'un livre il y a quelques mois. Une chaîne de télévision avait retrouvé ce disque et me l'avait montré. J'en avais pas oublié l'existence, mais je ne l'avais plus moi-même. Donc ça me fait plaisir de savoir que quelqu'un l'avait encore. Mais non, je n'ai pas fait de la musique de façon professionnelle, mais j'en ai fait de façon intense et de façon passionnée.
Et vous la pratiquez toujours la musique, ou est-ce qu'il y a un moment où vous avez arrêté de pratiquer et que vous êtes passé à autre chose?
Lorsque je me retrouve avec des amis et que j'ai une flûte entre les mains ou un violon, je peux m'aventurer à rejouer de la musique. Mais là, au terme d'un dîner récent avec Renaud Capuçon, j'ai décidé de me remettre à jouer du violon.
Ah oui ?
Et donc, il m'a suggéré un professeur qui est de grande qualité. Et donc, je pense que je vais profiter de mon retrait de la vie publique pour me remettre à cette pratique du violon dont je suis assez nostalgique.
Thank you.
De la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, pour vous Bernard Cazeneuve, parce que cela fait partie des œuvres qui ont compté dans votre vie. Ça, c'était un moment où vous étiez encore musicien ou c'est arrivé plus tard?
Non, c'était à la même période.
Ouais.
C'est cette période où je découvre beaucoup de compositeurs, où je vais beaucoup aux concerts, où on donne beaucoup d'œuvres avec ces ensembles musicaux auxquels j'appartiens, et notamment nous avions donné dans les années 80 également la Magnificat de Bach.
Ouais.
Et à ce moment-là, on avait été beaucoup au concert tous ensemble pour découvrir d'autres spectacles autour de Jean-Sébastien Bach à Paris, à l'Opéra, dans les salles de concert. Et c'était une époque où on donnait beaucoup les passions, la Passion selon saint Jean, la Passion selon saint Matthieu, les cantates de Bach. Nous avions chanté deux cantates de Bach, dont Isha Begonou, qui était une très belle cantate. Et donc, j'ai découvert à ce moment-là Bach, et je n'ai cessé de le découvrir tout au long de ma vie jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a de multiples interprétations. L'œuvre est immense, toutes les interprétations sont différentes et donnent à voir des timbres de voix différents, des interprétations dont le rythme ou la manière de restituer la complexité de l'œuvre est elle aussi très différente selon les chefs d'orchestre.
Est-ce que celle-ci
par exemple, selon la Passion, c'est une œuvre extrêmement intéressante, la Passion selon saint Matthieu, parce que c'est une œuvre qui est toute luthérienne dans sa conception, donc d'une austérité immense. Mmh. Et c'est une œuvre qui a été donnée pour la première fois par Jean-Sébastien Bach à Leipzig dans une église où ceux qui venaient parmi les fidèles les plus nombreux étaient d'obédience piétiste, donc des luthériens plus austères que les luthériens les plus austères. Et on reprochait à Jean-Sébastien Bach dans cette œuvre d'en avoir fait beaucoup, c'est-à-dire d'avoir rassemblé autour de cette passion bien des courants de l'histoire musicale, de la polyphonie du XVIe jusqu'à la musique baroque dont il était l'un des représentants, profilant aussi par la puissance de certaines mélodies, par la dimension émotionnelle de certaines mélodies, quelque chose qui laissait entrevoir ce que serait la musique romantique plus tard.
Oui, et puis on a l'impression d'entendre le point de vue de Jean-Sébastien Bach quand on écoute cette œuvre.
On entend le point de vue de Jean-Sébastien Bach, on a par le dialogue constant entre les chœurs et les récitatifs qui sont nombreux, le sentiment d'un dialogue entre la terre et le ciel, dont il dit lui-même qu'il a voulu le reconstituer à travers la juxtaposition des récitatifs et des chœurs. Et puis il y a aussi le texte lui-même, hein, c'est l'évangile qui est utilisé pour essayer de restituer ce qu'a été la souffrance du Christ et de ceux qui l'entouraient. Donc beaucoup de ceux qui ont analysé cette œuvre sont arrivés presque ensemble, sans nécessairement s'être parlé, à la conclusion que c'était une œuvre pleine de larmes.
Mmh.
Cette œuvre me rappelle ce très beau poème de Fernando Pessoa, dont le personnage dit « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes ». La Passion selon saint Matthieu, c'est un peu cela.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
En compagnie ce matin de l'ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve.
Mais je ne le suis plus, je ne contrarie personne.
C'est vrai, vous avez raison.
Émission musicale, il ne faut pas faire de peine à quiconque.
Oui, mais c'est parce que je voulais vous demander à quel moment vous ne m'avez pas répondu, tant vous connaissez la musique, à quel moment vous avez choisi finalement la politique? Est-ce que c'est la politique qui vous a choisi ou c'est vous qui vous êtes dit, bon voilà, je me lance?
Non, je ne sais pas répondre à cette question. J'avais eu cette rencontre avec François Mitterrand. François Mitterrand était élu président de la République. Ma famille s'est beaucoup engagée dans cette campagne. Il y a une espérance considérable qui existe dans le pays. À ce moment-là, moi, je commence à faire mes études supérieures et je décide, dans le courant de cette espérance qui déferle au début des années 80 sur le pays, de m'engager en politique et de m'engager en politique dans la fidélité à ce que je crois. Mmh. Et dans la fidélité aussi à ce qu'est mon histoire personnelle. Je pense qu'il y a ce que votre esprit vous dicte après que vous avez acquis votre liberté de confiance, mais il y a aussi tous les bagages que vous charriez avec vous. Mmh. Et donc parfois vous débarrassez pour partie en totalité. Eh bien moi je suis issu d'une famille de républicains laïcs, de gauche, qui croient à la justice sociale, qui ont des convictions, qui pensent que la droite et la gauche existent, qui détestent le sectarisme, qui détestent la dissimulation, qui pensent que la politique a quelque chose à voir avec la loyauté et la sincérité, et issu de cette tradition-là, et qui est une tradition portée par mon père, mais aussi par mes arrière-grands-parents, pour certains d'entre eux, je décide de m'engager dans la vie public et de le faire avec les convictions qui sont les miennes, et qui ont évolué à travers le temps, mais qui restent fidèles aux valeurs initiales qui ont présidé à mon engagement politique. Donc c'est dans les années 80 que je décide, parce qu'il y a François Mitterrand, parce qu'il y a un moment historique particulier, de m'engager dans la vie publique.
Et donc de renoncer aussi, j'imagine, à la musique à ce moment-là.
Ben, je renonce à la pratique musicale, ouais. Mais je ne renonce pas à la fréquentation de la musique. Parce que pendant toutes ces années, jusqu'à aujourd'hui, encore une fois, il ne s'est pas écoulé une journée sans que je n'écoute de la musique. Et quand j'ai été élu dans les années 90 à Cherbourg et que je faisais des allers-retours entre Cherbourg et Paris, compte tenu des efforts qu'on avait fait pour désenclaver le Cotentin, il fallait 3h30 pour s'y rendre, et 3h30 pour y aller, 3h30 pour revenir, ce sont des heures de musique, dont beaucoup étaient passées avec France Musique.
Thank you.
When I Am Laid in Earth, un extrait de Didon et Aînée de Purcell par l'orchestre du siècle des Lumières sous la direction de René Jacobs, et on entendait à l'instant Lynn Dawson. Alors c'est la complainte de Didon qui se donne la mort après qu'Aînée lui annonce qu'il doit la quitter par devoir. Elle chante et demande à sa confidente Belinda de se souvenir d'elle mais d'oublier son destin tragique. Bernard Cazeneuve, c'est en soi c'est une œuvre à part entière en fait, c'est cet extrait là de Didon et Aînée.
C'est une œuvre philosophico-musicale, ouais. Cet opéra. Pourquoi ? Parce que finalement, ce qui rend impossible l'amour entre Didon et Aînée, c'est le fait que le jeune prince de Troie est appelé par les dieux à accomplir une mission qui mécaniquement l'éloigne de sa bien-aimée et à laquelle il ne résiste pas. On lui envoie un sort, on lui présente ses dieux dans une forêt qui le rappelle à son devoir, et finalement il choisit son devoir parce qu'il ne peut pas faire autrement. Donc une dimension tragique, ça renvoie au conflit qui peut parfois exister entre les devoirs et les sentiments, qui est un conflit qui traverse bien des êtres dans bien des vies, et ça donne à la fin une grande tragédie au service de laquelle on met une mélodie exceptionnellement belle. Le génie de Purcell, là aussi,
ouais.
Qu'on retrouve dans d'autres œuvres, Aude à Sainte-Cécile, que vous connaissez sans doute, toutes ces œuvres de Purcell qui sont des œuvres exceptionnellement belles.
Et Bernard Cazeneuve, nous évoquions tout à l'heure votre passage par Cherbourg. Vous avez été maire de Cherbourg, et à Cherbourg, vous avez fait jouer Didon et Aînée ?
Oui, j'ai fait jouer Didon et Aînée dans des circonstances amusantes. J'étais premier vice-président de la région dans les années 2004-2005 et je ne rentrais pas tous les soirs à Cherbourg quand il y avait des réunions à Caen. Il y avait un petit hôtel de région où les élus pouvaient résider avant que de regagner leur ville. Et un soir, je rentre dans cet hôtel de région, il devait être minuit et demi, je rentrais d'une réunion avec des chefs d'entreprise, il était très tard. Puis je sens un parfum de cuisine, et je me rends dans la cuisine pour voir qui, à cette heure-là, faisait des mets aussi, qui dégageaient un parfum aussi sublime. Et je me retrouve avec William Christie, qui était dans la cuisine et qui, à l'époque, était en Basse-Normandie. Il animait une structure qui s'appelait le Jardin des Voix, il avait là-bas son orchestre. Et nous commençons à parler, cuisine bien entendu, il me donne son nom, je lui dis qu'il n'est pas nécessaire de le faire puisque je ne connais que lui, et nous commençons à parler musique baroque, et puis nous lions une relation amicale, sympathique, qui demeure encore aujourd'hui. Et puis, à un moment donné, quelques mois après, il me dit « qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» Je lui dis « écoutez, cet orchestre est un orchestre banormand, il n'y a donc pas de raison qu'il ne joue pas à Cherbourg, et si vous venez à Cherbourg, j'aimerais beaucoup qu'un jour vous puissiez donner Didon Aînée. » Et la directrice de la scène nationale a trouvé que c'était une excellente idée, et on a donné comme ça à Cherbourg Didon Aînée sous la direction de William Christie. Ça a été un moment absolument exceptionnel. Thank you.
Nikita Magaloff interprète la marche funèbre de la sonate numéro 2 en si bémol mineur opus 35 de Frédéric Chopin. Une marche funèbre qui résonne, Bernard Cazeneuve, je pense, avec précisément à des événements douloureux que vous avez traversés comme ministre de l'Intérieur.
C'est une mélodie que je ne supportais pas, parce que elle fait partie de ces mélodies entendues, réentendues, diffusées, rediffusées.
Trop diffusées,
par rapport auxquelles on sature. Et puis, cette pièce de Chopin était systématiquement jouée à l'occasion des cérémonies où des policiers, des gendarmes, des victimes du terrorisme avaient disparu et où on se retrouvait pour leur rendre hommage. Et au moment où les cercueils partaient, on jouait toujours cette mélodie. Et finalement, cette mélodie, elle a fini par être dans mon esprit, dans mon cœur, comme une manière d'apprivoiser la tragédie et la mort. Donc, j'ai, pour des raisons qui tiennent aux événements, qui sont extérieurs à ce qu'est la mélodie elle-même, fini par entretenir avec cette pièce de Chopin une relation particulière, peut-être parce que elle m'a permis d'entretenir dans les moments les plus tragiques avec la mort une relation différente.
Mais précisément, Bernard Cazeneuve, on pense à tous ces attentats qu'on a connus ces dernières années, pendant lesquels vous étiez, vous, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. J'avais envie de vous demander comment on trouve la tonalité juste par rapport à ce genre d'événement. Ça doit être très compliqué de réussir à être complètement en phase avec les circonstances.
Moi, j'ai toujours, à ce moment-là, eu la pensée d'abord de ceux qui étaient confronté à un chagrin extrême, et puis j'ai eu la pensée du pays, et puis la conviction aussi que j'avais au moment même où je suis rentré au gouvernement, que la France est infiniment plus grande que nous, et que par conséquent nous devons puiser au fond de nous-mêmes la force dans les circonstances tragiques pour exprimer ce qui doit l'être, et de le faire avec le souci du pays. Mmh. Et donc quand on a le souci du pays, qu'on a conviction que la France est plus grande que soi, qu'on est dans une relation personnel avec ceux qui ont été victimes de ces tragédies, je pense aux policiers, aux gendarmes, et une relation de profonde empathie avec les Français qui ont été victimes du terrorisme, on n'a pas de mal à trouver les mots. Il s'agit simplement de laisser son humanité parler.
Un extrait des variations Goldberg dans la version 1982 interprétée par Glenn Gould, bien sûr de Jean-Sébastien Bach. Bernard Cazeneuve, les variations Goldberg, c'est une musique que vous écoutez pour vous détendre, je crois.
C'est une musique que j'écoute comme la musique de Bach très régulièrement, continuellement, comme on relit la recherche en continu. Et à chaque fois, on découvre des choses qu'on n'avait pas perçues à l'occasion de la lecture précédente. Donc, les variations Goldberg, c'est une musique qui a pour caractéristique, ça la différencie de celle que nous avons écoutée tout à l'heure, qui était aussi de Bach, je veux parler de la passion selon saint Matthieu, qui a une dimension très mathématique. Il y a une dimension très mathématique dans la musique de Bach. Il y a comme une rencontre entre les sciences exactes et la sensibilité et qui donne à ce compositeur une place particulière dans la musique européenne et dans la musique universelle. Donc j'aime beaucoup ces pièces, ces variations Goldberg.
Et puis j'aime
beaucoup Glenn Gould aussi, qui est un personnage quand même absolument inouï, qui était d'une grande excentricité. On a été obligé de couper souvent quand il interprétait dans les studios, puisqu'à la fin, il ne donnait plus de concerts. Il interprétait dans les studios, et c'est par sa discographie qu'on découvrait Glenn Gould et ses interprétations. Mais il chantait en même temps qu'il jouait. Donc on était obligé parfois d'enlever, avec les moyens de la technique, les chants de Glenn Gould pour essayer d'avoir un peu de piano, qui était quand même son art premier. Il était toujours penché sur le clavier, il se trimballait toujours avec un petit tabouret qu'il avait scié et dont il ne s'est débarrassé à la fin de sa vie que parce que le tabouret a rendu l'âme, et je crois qu'il a dû mourir quelque temps après que le tabouret l'avait lâché.
Oui.
Donc Glenn Gould, c'est quand même un personnage très excentrique, et beaucoup de psychologues ont vu qu'il y avait derrière son génie absolu et son excentricité quelque chose qui renvoyait à des symptômes de maladies psychologiques dont on parle plus couramment aujourd'hui, le syndrome d'Asperger notamment.
Thank you.
William Christie et les arts florissants interprètent cet extrait de la messe en 6 de Jean-Sébastien Bach. C'était pour deux raisons, Bernard Cazeneuve. La première, c'était bien sûr pour évoquer avec vous la place centrale qu'occupe Jean-Sébastien Bach dans votre vie. Et puis, on en a parlé tout à l'heure de William Christie. J'ai entendu dire que lors d'une remise d'un signe, vous étiez la personne que William Christie avait sollicité pour lui remettre l'insigne et faire le discours. Et on m'a dit que vous aviez oublié vos notes dans le train. Et néanmoins, que le discours était extraordinaire, que voilà, c'était, on sentait que vous connaissiez parfaitement William Christie, son entourage et tous les musiciens qui l'entourent, qui sont nombreux.
Pour William Christie, je vous l'ai dit, beaucoup d'amitié. Et au moment où j'ai fait ce discours, je le connaissais déjà bien. Oui. Et j'avais eu l'occasion de participer à plusieurs de ses concerts. J'avais eu l'occasion aussi de parler avec lui d'une autre de ses passions qu'est le jardin, puisque vous savez qu'il a un jardin exceptionnel avec des espèces botaniques assez rares, un aménagement paysager d'une grande subtilité en Vendée, où chaque été au mois d'août, il organise aussi des concerts avec ses musiciens. Je n'ai pas eu de mal à faire ce discours. Bon, je n'aime pas avoir de notes, je pense qu'il faut travailler beaucoup avant de faire une intervention, essayer de sentir les choses, s'imprégner des sujets, et si on peut éviter d'avoir des notes devant soi et essayer de révéler de façon spontanée la vérité qu'on a au plus profond de soi-même sur les êtres, sur les circonstances, sur les sujets, ça a beaucoup plus de force et ça donne beaucoup plus d'intérêt à l'art oratoire que lorsque on annonce un discours et que l'on a devant soi et que d'autres que soi-même ont contribué à préparer, généralement des collaborateurs. Oui, cet extrait de Bach me renvoie à un autre sujet que nous évoquions pendant notre conversation, et je voudrais éviter les correspondances faciles. Mais lorsque François Mitterrand dit « je crois aux forces de l'esprit », il veut dire par là qu'il y a des choses que nous exprimons qui sont le résultat d'un héritage, qui sont éternelles souvent, parce qu'il y a une dimension d'universalité dans certaines formes d'expression humaine. Et puis il y a aussi parfois chez des êtres qui sont doués de prescience ou qui ont un talent exceptionnel ou qui ont une sensibilité à fleur de peau, une capacité à laisser prévoir ou présager de ce que sera à l'avenir à travers l'œuvre dont ils sont les auteurs au moment où ils la composent. Ouais. Bon, ben c'est exactement ça, Bach, parce que ce qui fait la force de Jean-Sébastien Bach, ce qui fait sa place encore une fois particulière, c'est que il reprend tout l'héritage. Il y ajoute son génie, et son génie est tellement grand qu'il annonce ce qui viendra après, c'est-à-dire encore une fois une grande partie de la musique romantique. Je vous parlais tout à l'heure de la dimension mathématique de la musique de Bach, mais ce que déconstruiront, parfois en ayant recours aux mathématiques, les compositeurs du début du XXe siècle qui appartiennent à l'école de Vienne, Berg, Webern, c'est précisément ces formes de construction musicale. Donc il annonce tout cela. Ça m'intéresse beaucoup, ça, parce que j'ai, pour ma part, la conviction que rien ne commence avec soi-même, qu'on porte les bagages de ceux qui nous ont précédés, et que le véritable génie, ce n'est pas de considérer que tout commence avec soi-même, mais c'est d'être capable de faire la synthèse de tout ce qui nous a précédés et de se projeter vers un avenir à l'élaboration duquel ou à la définition duquel on contribue. Et ça, c'est la force de Jean-Sébastien Bach. Et lorsque François Mitterrand, en politique, dit « je crois aux forces de l'esprit », c'est un peu, je crois, ce génie auquel il fait référence. Et au fil qui ne se coupe jamais.
On va rester dans cette allégorie avec la rose.
Thank you.
Ronsard à son âme de Maurice Ravel, interprété par l'ensemble Accentus sous la direction de Laurence Equilbé. Pour évoquer avec vous, Bernard Cazeneuve, pour terminer, justement, ces fleurs, ces roses, ce poète, et puis ces voix, on sent que finalement on est tout le temps dans quelque chose de très proche de ce que nous sommes. Et notamment, vous avez une passion pour le jardin, c'est la passion commune avec William Christie, et ces roses dont nous parlions avec François Mitterrand. Le jardin, cultiver son jardin au sens propre, c'est important.
Le jardin, c'est important pour plein de raisons. Bon, d'abord, j'ai pas découvert les jardins par hasard. Lorsque j'étais maire de Cherbourg, je cherchais à trouver quelques points d'arrimage à une modernisation de la ville, mais qui soit fidèle à ce qu'était son histoire. Et à ce moment-là, j'ai découvert, dans la consultation des documents des sociétés savantes, qui étaient très nombreuses à Cherbourg, puisqu'il y a toujours eu à Cherbourg un coefficient ingénieur au mètre carré plus important que partout ailleurs, pour des raisons qui tenaient à la présence de la construction navale, que si Louis XIV avait demandé aux marins de s'implanter à Cherbourg, c'était pas du tout pour construire des bateaux, mais c'était pour les inciter à aller partout dans le monde récupérer des espèces botaniques qui était implanté à Cherbourg en raison du climat absolument tempéré de cette ville. Et ensuite, on emmenait ces plantes au jardin d'acclimatation, puis à Versailles. Et donc, nous avons, du fait de cette réalité historique à Cherbourg, des collections botaniques absolument exceptionnelles, et des plantes dans les jardins publics qu'on ne voit nulle part ailleurs, et une tradition de sociétés savantes qui ont constitué des collections, et notamment la collection du docteur Favier, qui est un jardin qu'on a réussi à sauver en le faisant acquérir par le Conservatoire du Littoral et qui est un jardin exceptionnel. Donc c'est là que j'ai appris à découvrir les plantes. Et ensuite, cet intérêt pour les jardins m'a conduit à faire un jardin moi-même. Et il y a un lien entre les jardins et la vie. Il y a un lien entre les jardins et la vie politique aussi. C'est-à-dire que le jardin ne se porte bien et ne supporte que les saisons dès lors qu'on accepte que le temps des saisons passe. On ne peut pas brutaliser les plantes. Il faut accepter parfois qu'elles souffrent des tempêtes, on ne peut pas les faire éclore plutôt qu'au printemps, on ne peut pas les faire vivre dans leur floraison au-delà de l'été. Et les plantes élevées en serre, parfois, grandissent très vite, mais ont une capacité racinaire très faible, et quand on les met en grand vent, elles ne résistent pas. Et donc, voilà, moi j'aime les jardins parce que les jardins sont des lieux où on se retrouve finalement face à soi-même, face aux éléments de la nature, mais surtout face à une notion à laquelle on ne peut échapper, ou une réalité à laquelle on ne peut échapper, c'est le temps. Et les saisons qui passent et qui passent encore, et les plantes qui revivent, qui renaissent, qui meurent, tout ça c'est la vie.
Merci Bernard Cazeneuve, on va se quitter déjà trop tôt avec Franz Lehár, dont le titre est prometteur, hein. Je t'ai donné mon cœur, le pays du sourire, mais pourtant c'est pas du tout gay.
Non, c'est pas ma musique, mais ça fait partie de ce qu'aimait mes grands-mères qui m'emmenaient à l'opéra au moment de Noël. Alors, je me souviens d'avoir vu au théâtre de Montpellier avec ma grand-mère maternelle un très beau pays du sourire. Alors ce n'est pas la musique vers laquelle je me tourne, mais ça fait partie des bons souvenirs musicaux.
Merci Bernard Cazeneuve, on va rester au plus près des saisons. Merci d'être venu ce matin sur France Musique.
Ta présence reste en moi, Ton souffle parfumé m'enivre. Je n'ai qu'une raison de vivre.
Je t'ai donné mon cœur, un extrait du Pays du Sourire de Franz Léard pour terminer cette émission en compagnie de Bernard Cazeneuve qui était donc l'invité de Musique et Moi ce matin. Un grand merci à Bernard Laniel qui était à la prise de son. La fine équipe, c'est Sophie Pichon et Marie Ferdinand qui sont à la collaboration de cette émission. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et Moi. Sachez que vendredi et samedi prochain, France Musique sera à la Folle Journée de Nantes. Donc si vous êtes de passage à Nantes ou dans les environs, venez nous rencontrer à la Folle Journée de Nantes. Nous, on se retrouve dimanche prochain, 11h. D'ici là, une très belle semaine à l'écoute de France Musique.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.